Donc, cette première unité thématique est nommée adaptation. Donc, nous entendrons trois personnes, trois femmes. Et donc, on aura après ces trois interventions une table ronde, donc intervention croisée, en essayant voilà, de trouver ces points communs, de dégager des axes et des champs de réflexion à partir de ces trois interventions qui pourront aussi impliquer vos questions. Donc, vous pourrez poser vos questions. Donc, commencer cette matinée avec Ginette Gomintogwe, étudie en art du spectacle et cinématographie, option production théâtrale à l'université de Yaoundé, donc au Cameroun, qui est en cinquième année de doctorat théâtre à l'université de Lyon 2, laboratoire Passage 21, et dont les travaux portent sur la viabilité économique des compagnies de théâtre au Cameroun et cherchent à identifier concrètement et à discuter les différentes stratégies de développement économique et artistique des compagnies théâtrales dans un environnement créatif qui est en proie à un nombre toujours plus croissant de tensions politiques, sociales, culturelles et économiques. Donc, elle va nous parler de ces nouveaux espaces de théâtre au Cameroun, de leur rôle et de leur perspective. Et donc, je vais lui laisser la parole pour commencer à nous présenter déjà une mise en perspective sur le théâtre camerounais pour que tout le monde, cette crise sanitaire mondiale et ce qu'elle a modifié.
Alors, l'histoire du théâtre au Cameroun se divise en trois principaux temps. Les temps sont associés à l'histoire politique du Cameroun déjà. Donc, on a le théâtre précolonial qui se déroule dans des espaces théâtraux ouverts. C'est plus des espaces publics, des espaces qui sont liés anthropologiquement et culturellement à la vie des populations. Ensuite, on a le théâtre colonial, qui est aussi appelé théâtre missionnaire parce que voilà, c'est des prêtres qui vont introduire la pratique théâtrale dans les églises, dans les écoles confessionnelles. Et ensuite, on a le théâtre postcolonial qui va évoluer et être pratiqué dans des espaces plus conventionnels, dans des salles de spectacle et de théâtre.
Qu'est-ce qui se... C'est terrible comme question, mais quelle est la situation théâtrale, donc là évidemment, période post-coloniale, avant la crise, et qu'est-ce qui est modifié, puisque vous venez de dire qu'en situation post-coloniale, le théâtre se développe dans des espaces plus conventionnels, donc notamment des lieux fermés. Donc je suppose que c'était le cas, mais vous allez me dire au moment où la crise se déclenche, et qu'est-ce qui a changé depuis le déclenchement de la crise sanitaire?
Alors, bon, déjà pour savoir ce qui a changé, il convient d'identifier, enfin de définir une typologie des espaces. On a quatre principaux types d'espaces dans le théâtre au Cameroun et surtout dans les pays d'Afrique noire francophone, de manière générale. Les principaux espaces, les premiers types d'espaces, c'est les espaces sacrés et traditionnels. Comme je le disais tout à l'heure, c'est les places de village, des cours de chefferie, des places de fête et de cérémonie, les espaces sacrés religieux, notamment pour les drames religieux, les parvis des églises, les intérieurs d'églises et autres lieux saints. Le troisième type d'espace, c'est les espaces publics aménagés et ou exploités à l'occasion. Ça peut être des écoles, des marchés, des bords de piscine, des carrefours, des terrains communaux, des stades de quartier, terrains de pétanque, maisons d'habitation, parkings. Et quatrième type d'espace, c'est les espaces alternatifs, comme des locaux d'entreprise et autres structures non culturelles. Donc, ce qu'il faut savoir avec ces espaces, c'est que en fonction de l'évolution dans le temps, les espaces qui autrefois étaient conventionnels d'un point de vue anthropologique, comme je le disais, ont fini par devenir des espaces atypiques, dont les cours de chefferie, par exemple, qui étaient localement les espaces conventionnels, ont fini par devenir des espaces atypiques, tandis que les espaces atypiques qui sont des salles de spectacle, par exemple, eux sont devenus des espaces conventionnels. Donc voilà, il y a eu à chaque fois ce remplacement. Mais ça a entraîné quelque chose d'assez important d'un point de vue artistique, et culturelle, c'est que voilà, les compagnies ont fini par dépendre essentiellement des espaces conventionnels que sont les salles de spectacle. Et d'un point de vue culturel, ce n'est plus tellement leur avantage parce que esthétiquement, ça leur impose énormément de contraintes, devoir toujours s'adapter parce que voilà, selon ce que les programmateurs attendent de leur spectacle, et d'un point de vue esthétique, il y a une certaine limitation dans la liberté créatrice des artistes, ce qui fait que maintenant, ils se tournent davantage vers les espaces conventionnels d'autrefois, c'est-à-dire les terrains ouverts, des espaces plus, des terrains communaux, comme je le disais tout à l'heure. Et la crise sanitaire va apporter ceci de particulier, qu'elle va renforcer les initiatives des artistes qui ont de plus en plus la possibilité de se tourner vers ces espaces-là. Donc maintenant, les artistes vont se proposer de plus en plus de faire du théâtre chez soi, donc aller davantage vers le public plutôt que de rester dans les salles que le public ne, vers lequel, dans lesquelles, pardon, le public ne va pas beaucoup. Parce que voilà, peut-être c'est très coûteux, ce n'est pas toujours facilement accessible en fonction de l'endroit où on vit. Et pour certains aussi, selon leur niveau de vie, voilà, ils ne se voient pas forcément aller dans ce genre de salle. Je parle par exemple de l'Institut français du Cameroun à Yaoundé et à Douala. C'est des espaces qui sont assez, d'un certain standing, j'ai envie de dire, et tout le monde ne s'identifie pas forcément à ça, à ce genre d'espace. Et donc, voilà, j'ai envie de dire, peut-être heureusement ou malheureusement, un avantage pour les compagnies en ceci que ça va davantage les dynamiser dans cette initiative-là de sortir de ces espaces et de proposer un théâtre qui est plus près des populations, avec les espaces que tout le monde connaît, les espaces que tout le monde fréquente, les espaces avec lesquels tout le monde est plus à l'aise. Et avec moins de contraintes économiques aussi, avec plus de latitude d'un point de vue esthétique, plus de liberté aussi.
Alors justement, quel type de théâtre, je rebondis sur ce que vous venez d'évoquer, moins de contraintes économiques et plus de liberté de création. Comment est-ce que les compagnies qui vont travailler dans ces anciens espaces traditionnels, mais qui étaient devenus du coup atypiques et ces sortes de retour à ces espaces qui ont un rôle et un poids historique, mais voilà, vers lequel on se tourne à nouveau. Mais du coup, comment sont financées les compagnies? Parce que est-ce qu'il y a toujours une possibilité d'être financé ou d'être aidé quand on sort des institutions, ou est-ce qu'il faut trouver d'autres moyens? Comment est-ce que c'est possible pour ces compagnies?
Ce retour se fait sur financement propre, je dirais essentiellement, parce que ça va être des productions qui vont demander moins de moyens financiers à mettre en jeu. Et donc, c'est un peu un théâtre, un retour vers un théâtre des origines, avec moins d'artifices, je dirais, moins de moyens techniques à mettre en jeu. Donc, ça va être plus facile pour les compagnies d'utiliser, j'ai envie de dire, ce qu'elles ont déjà, de mettre à profit leurs propres avoirs et d'être moins dépendantes financièrement de certaines institutions, par exemple. Mais dans le cas, par exemple, du théâtre utile, qui se fait beaucoup au Cameroun, théâtre pour le développement, ça va aussi, ça va quand même demander ça va quand même demander un certain financement, parce que très souvent, ça se fait en partenariat avec des organisations non gouvernementales. Là, le spectacle est plus susceptible d'être financé. Mais si c'est un spectacle d'esthétique propre, par contre, la compagnie doit elle-même fournir les moyens, matériels et financiers pour cela.
Parce que quand ça se passe dans ces espaces traditionnels, du coup, le public, alors notamment pour le théâtre utile, ne paie pas sa présence au spectacle, enfin, que je sache. Mais en revanche, j'imagine bien que certaines compagnies ont besoin aussi d'avoir aussi une participation des publics. Comment ça se passe? Ou est-ce que c'est toujours gratuit et qu'il faut trouver d'autres moyens de vivre?
Alors, ça dépend de la compagnie. Ça dépend de la compagnie. Certaines compagnies vont faire à la fois des spectacles gratuits et des spectacles payants. Dans un premier temps, elles vont se lancer dans des spectacles gratuits pour, j'ai envie de dire, renouer un peu avec le public. Parce que entre l'évolution de ces différents espaces, beaucoup de compagnies ont perdu du public. Le public ne se reconnaît plus forcément dans ces espaces. Le public a aussi perdu une certaine culture du théâtre. Et voilà, les compagnies vont se lancer dans cette reconquête du public. Donc, tantôt les spectacles seront gratuits, tantôt les spectacles, lorsqu'on constate qu'il y a de plus en plus de public, vont progressivement être rendus payants.
D'accord, effectivement. Oui. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir, il faut que les compagnies puissent vivre en attendant que ça puisse devenir
Oui,
payant.
exactement.
Ouais.
Exactement.
Et est-ce que vous auriez un exemple précis, concret de compagnie de spectacle qui a été créé soit avant, soit pendant la crise
D'accord. Alors, je vais
précis?
reprendre le cas de la compagnie Eminta. C'est une compagnie de théâtre de la ville de Yaoundé. Ils font d'habitude dans, j'ai envie de dire, presque toutes. Enfin, ils n'ont pas de répertoire précis en termes de spectacle de théâtre. Ils font un peu de tout, je dirais. Mais ils étaient davantage en partenariat avec l'Institut français du Cameroun. Pendant la crise, ça fait partie des espaces qui ont été fermés. Partie des espaces qui ont été fermés et ils se sont mis à proposer le théâtre sous le Manguier. Bon, cette initiative existait déjà, mais sauf qu'elle n'était pas très connue parce que voilà, lorsqu'il y a des espaces de spectacle ouverts, c'est un peu difficile de proposer du théâtre chez l'habitant. Ça ne passe pas forcément facilement. Donc, ils ont davantage appuyé ce projet avec l'aide d'autres artistes. En fait, c'est une plateforme qui permet à certains artistes de collaborer avec un public qui peut s'inscrire sur la plateforme. Donc, ils s'organisent comme ça. On va de, selon, en fonction de la personne qui est intéressée, elle peut dire, voilà, pour ce mois, le spectacle peut se dérouler chez moi, par exemple, avec un nombre limité de personnes, bien sûr, et les contributions sont en fonction de ce que le public estime que le spectacle vaut, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de prix arrêté.
C'est ce qu'on connaît, alors qu'on appelle en France le faire passer le chapeau
Oui,
pour
un peu aussi.
voilà, chaque personne. Bon, et en général, c'est le moment où le public fuit vers d'autres horizons.
Mais,
Bon,
sauf que là, si vous fuyez, on vous voit fuir quand
c'est
même.
ça. Oui, et après, il faut accepter moralement d'avoir
Oui,
cette image. Oui, c'est vrai,
oui, oui.
c'est vrai, parce que. Mais le théâtre chez l'habitant, alors du coup, j'ai une question plus précise,
Oui.
parce que le Cameroun et le climat aussi spécifique enfin, fait qu'il y a davantage de cours hein,
Oui.
grandes et ouvertes.
Oui.
Alors je suppose que c'est plutôt dans la cour, on peut inviter aussi des personnes de l'entourage, des voisins, etc., plutôt que dans les pièces, dans le salon, etc., où ça peut être vraiment. Je pensais plus à la crise sanitaire, où là, on
Oui.
disait, on n'a pas fait de théâtre d'appartement pendant la crise sanitaire parce qu'on
Oui.
peut pas.
Ah, bon, pour répondre à cette question, c'est aussi, j'ai envie de dire quelque chose de, je sais pas si je dois dire social ou culturel, parce que voilà, au Cameroun, il n'y a pas eu la même effervescence autour de la crise sanitaire qu'ailleurs, voilà. Les gens n'étaient pas aussi méfiants, les gens n'étaient pas aussi, effrayés, j'ai envie de dire, parce que voilà, ceux qui portent le masque, c'est ceux, par exemple, qui veulent le porter, il n'y a pas d'obligation là-dessus. Donc, si quelqu'un veut organiser un spectacle chez lui, qu'il le fasse dans sa maison ou dans une cour, en principe, rien n'a été interdit de tel. Donc, ça dépend. Ça dépend vraiment de la personne à laquelle appartient le domicile. Elle le fait où elle veut. Ça peut être dans son parking, ça peut être dans la cour, ça peut être même à l'intérieur de la maison. C'est vraiment au choix. Sachant qu'il n'y a pas d'interdiction là-dessus, comme je le
Ouais.
disais.
Du coup, ça, bon, enfin, je savais qu'effectivement, selon les pays, il n'y avait pas eu les mêmes interdictions. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça confirme ce que vous disiez initialement, c'est que les lieux qui n'étaient pas des lieux traditionnels, mais qui se sont imposés, on va dire, un peu dans la suite
Oui,
coloniale, enfin, ces
oui.
lieux fermés qui n'étaient pas des lieux normaux
Oui.
pour la culture camerounaise. Ont été, eux, fermés, notamment l'Institut français, par exemple,
Oui.
que vous avez cité, et ça accélère un processus, si j'ai bien compris, qui était déjà en cours, de
Oui.
retourner vers d'autres
Oui.
espaces. Donc, est-ce que vous pensez que c'est du coup, un mouvement qui va se poursuivre, donc,
Perdurer, oui.
ouais.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est un mouvement qui va perdurer dans la mesure où les compagnies cherchent aussi quelque part leur indépendance financière. Donc, si elles ont l'occasion d'exploiter ces espaces avec les moyens qu'elles ont, bien qu'étant infimes, sans devoir recourir à des financements extérieurs qui leur apportent un certain nombre de contraintes, je pense qu'elles sont totalement dans cette idée-là et elles mettent de plus en plus de projets sur pied par rapport à ça. Donc, je pense qu'il y a un avenir. Maintenant, reste à savoir comment est-ce qu'elles vont s'organiser, en sachant que ce n'est pas toujours facile de faire contribuer tout le monde, chacun aussi selon ses perspectives en tant qu'artiste individuel. Donc, je pense qu'effectivement, il y a un avenir là-dedans. Il y a un avenir
Merci beaucoup, Ginette, pour
là-dedans.
voilà, ce premier partage. Donc on reparlera aussi, on recroisera les expériences à la fin des trois interventions.